Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel.
Alors, moins de 2 mois après sa réélection, le président français Emmanuel Macron se retrouve privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Une situation inédite qui ouvre une période d'incertitude et d'instabilité politique en France. Et pour nous en parler, on a avec nous Madame Rachel Binas, journaliste indépendante en France. Bonjour Madame Binas.
Bonjour.
Alors, on apprend à l'instant une information que vous allez pouvoir confirmer, que la première ministre Elisabeth Borne aurait remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusé, bien qu'il se trouve dans une impasse depuis dimanche, notamment avec 3 ministres qui n'ont pas été élus.
Tout à fait. Alors ensuite, ça reste un acte assez traditionnel que celui de remettre son acte de démission qui est souvent refusé par le président. C'est une manière d'acter que un nouveau gouvernement doit être mis en place. Mais ça n'a pas de signification politique plus importante que celle-ci. C'est la coutume, après les élections législatives, proposition du Premier ministre de démissionner, et puis généralement le gouvernement, enfin le président de la République dit non.
Mais là, tout d'un coup, le Premier ministre avait déjà nommé, le président avait déjà nommé son conseil des ministres, mais il se doit aujourd'hui de faire des ajustements à son cabinet tout fraîchement nommé.
Exactement. Il faut le dire, le gouvernement, La République En Marche, s'est pris une gifle avec ces élections-là. Et le gouvernement semble vraiment désemparé. C'est un petit séisme. Il lui manque une 40aine de députés environ pour avoir la majorité absolue. Et puis, en plus de ça, vous l'avez dit, des ministres n'ont pas été élus. Amélie de Montchalin, la transition écologique, Richard Ferrand, qui était comme le président de l'Assemblée nationale. Ce sont des figures majeures. Et donc, la situation, en effet, est celle de l'incertitude. Et il y a fort à parier que ça ne soit pas l'affaire que de quelques mois. C'est-à-dire qu'on va entrer dans un quinquennat absolument incertain en matière de mesures politiques.
Et Monsieur Macron, il va devoir, pour les prochaines années, former des alliances, proposer des projets de réforme qui soient plus inclusifs. Mais comment peut-il faire avec, et d'un côté, une forte présence d'une gauche représentée par Jean-Luc Mélenchon, et d'un autre côté, une poussée de la droite, de l'extrême droite, diront certains, avec Marine Le Pen?
C'est ça, c'est un désaveu donc pour Macron qui va sortir là d'une zone de confort. Alors il y a des alliances qui sont nécessaires, alors des alliances de circonstances. Alors il peut se rapprocher par exemple des LR, les Républicains, la droite classique pour faire vite, alors qui a perdu un certain nombre de sièges, mais qui va avoir là un rôle d'arbitre à jouer. Néanmoins, on l'a appris il y a quelques heures, Christian Jacob, le président des Républicains, a expliqué qu'ils garderaient leur autonomie et qu'il n'était nulle question d'alliance ou de coalition. Donc ça va être, on entre dans l'ère permanente. En effet, face à lui, le RN, le Rassemblement National, qui réalise un résultat historique, 89 sièges, c'est du jamais vu. Donc le parti de Marine Le Pen prend sa revanche électorale, c'est son meilleur score depuis la création du parti. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle la NUPES, c'est une coalition de gauche qui devient la première force d'opposition. Mais elle n'a pas assez de députés pour contraindre le gouvernement à une cohabitation. Donc ça va être comme ça des espèces de forces, de blocs qui vont s'affronter et qui vont tenter de ne pas être stériles, c'est-à-dire d'accoucher de mesures, d'une politique et de ne pas passer tout un quinquennat à se bloquer les uns les autres.
Ça risque d'être difficile, un quinquennat où il va falloir être très délicat dans la gestion projet par projet finalement de ces alliances, parce qu'il ne s'agira pas d'avoir un appui de n'importe quel autre groupe. Emmanuel Macron va devoir maintenir des liens avec chacun des groupes pour essayer de faire avancer des dossiers, et des dossiers il en a pour les prochaines 5 années.
Tout à fait. Et là, c'est encore une fois, on est dans une ère très particulière où il va devoir faire ce qu'il n'apprécie pas forcément, c'est-à-dire négocier, faire des efforts, peut-être des sacrifices parfois. Il sort quand même dans le premier quinquennat avec une majorité absolue, qui était donc extrêmement confortable pour lui. Et là, tout d'un coup, ben, il passe de 308 députés à 245. Et en face de lui, une gauche qui en compte plus de 130. Vous l'avez dit, un Rassemblement national avec lequel ben, qu'on pourra pas évacuer, hein, qui passe de 8 députés en 2017 à 89 aujourd'hui. Et donc, il va devoir se tourner à la fois vers ce qu'on appelle les divers gauches, les divers droites, et puis draguer peut-être cette droite classique républicaine pour tenter d'avoir des alliances de circonstances sur des projets particuliers. Mais on voit bien que l'époque politique a changé pour Emmanuel Macron.
Et d'ailleurs, on essaie de comprendre de ce côté-ci de l'Atlantique la fragmentation de la société française. On le voit aussi avec en fait les résultats du vote. On le voit également avec la participation aux différents votes qu'il y a eu. Puis vous en avez eu le premier tour présidentiel, le deuxième tour présidentiel, les législatives. Et on voit que ça mobilise très peu la population française, mais ceux qui sont mobilisés sont très très décidés, disons, dans les extrêmes, appelons-le comme ça. Qu'est-ce qui explique cette scission dans la société française?
C'est en effet l'abstention qui est le premier aujourd'hui parti, enfin la grande gagnante, premier parti de France, c'est l'abstention. Elle n'est pas record, mais elle est assez élevée hein, cette année. Et puis, vous l'avez dit, ben, on se cristallise autour de ce que certains appelleraient les extrêmes, mais qui investissent des sujets que d'autres partis n'investissent plus ou pas. Ça peut être l'immigration, l'insécurité, l'écologie, le pouvoir d'achat, et tout ça, ben, tout ça paye. Et aujourd'hui, ben, le Rassemblement national bénéficie d'un travail qu'il a mené en fait au long terme, sur le long terme vraiment. Et puis Mélenchon également, par le biais de son projet politique, parce que Mélenchon avait il s'est présenté en ayant vraiment un projet très défini. Quand La République En Marche pratique beaucoup le en même temps, n'a pas de réelle colonne vertébrale idéologique. Et donc ce sont les partis qui ont proposé un projet, quel que soit la vie que l'on peut avoir, bah, qui ont vu leur score plutôt augmenter. Bon, même stagner pour la NUPES, la coalition de gauche. Mais c'est eux qui s'en sortent le mieux. C'est eux qui s'en sortent le mieux, c'est-à-dire ces partis qui ont une alternative, qui proposent une alternative et qui vont aussi cristalliser la colère des Français, le mécontentement. Il y a un anti-macronisme, une espèce de vote anti-système. Et forcément, la France insoumise, le parti de Mélenchon, la gauche dite radicale, et puis de l'autre côté Marine Le Pen, la droite de la droite, le Rassemblement National, eh bien justement arrive à récupérer, à cristalliser l'intérêt autour de leur programme, autour de leur candidature.
Alors c'est le retour du débat droite-gauche en France, sauf que cette fois-ci ce n'est pas le Parti Socialiste versus les Républicains, c'est le NUPES avec le Rassemblement National. Ça a l'air très intéressant parce que de notre côté ici aussi, les partis traditionnels, disons les libéraux et les péquistes, sont écrasés dans les sondages et ce sont plutôt les autres partis qui récupèrent leur vote. C'est très intéressant de faire des parallèles là-dessus. Richard Binas, Rachel Binas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous et on se reparle très bientôt.
Merci à vous, au revoir.